La SIC en grave difficulté financière, le bailleur social fait face à un nombre très important de loyers impayés. Nouvelle séance au Congrès, les élus étudient pour la deuxième fois la demande à l'État d'un plan quinquennal d'accompagnement pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. En métropole, toujours pas de Premier ministre, Emmanuel Macron lance de nouvelles consultations après avoir écarté le nouveau Front populaire. Un nouvel otage libéré par l'armée israélienne à Gaza, il reste encore 108 otages détenus par le Hamas. Et puis en sport du cyclisme, et troisième victoire d'étape pour Wout van Aert sur la Vuelta, le Belge remporte la 10e étape de ce Tour d'Espagne devant le Français Quentin Paché. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La SIC passe en phase de survie. C'est le message passé ce matin par le bailleur social qui est contraint, en raison de la crise du 13 mai, de mettre en place un plan d'économie drastique, Nicolas Legrand.
Oui, la SIC est en très grande difficulté. Elle a perdu deux agences à Saint-Quentin et autour de Magenta qui ont été brûlées. Il y a eu aussi une dégradation le week-end dernier sur son agence de Connay. Mais au-delà des dégâts matériels, elle fait surtout face à une hausse constante et très importante des impayés de la part de ses locataires. En 2023, le montant moyen des impayés était d'environ 25 millions de francs par mois. Aujourd'hui, il a bondi à 75 millions. Cette année, l'enveloppe pourrait s'élever à 700 millions de francs, voire même 1 milliard de manque à gagner, selon les projections les plus pessimistes. Et s'ajoute à cela l'aide au logement, qui n'a pas été versée à la SIC en juillet. Un manque à gagner qui fragilise donc l'entreprise qui loge 27 000 Calédoniens à travers le territoire. Benoît Naturel est le directeur de la SIC.
C'est effectivement assez alarmant puisque ça met de facto la survie des bailleurs sociaux en question, hein, puisque on voit que ce soit des pertes d'emploi ou des fois peut-être pas du tout de chômage partiel ou spécifique, ça se traduit nécessairement par des pertes de ressources. Et donc quand une entreprise comme la SIC dépend à plus de 85% de la collecte et de la capacité des locataires à payer leur loyer, fatalement, une fois que ce pilier-là est mis en défaut, ça met en défaut l'entreprise. Ce qu'on mesure, nous, c'est la variation du taux d'impayé, c'est un peu technique, mais il est en constante évolution et dans des chiffres qui sont assez alarmants. Et les projections nous font craindre d'atteindre la fin de l'année de manière assez douloureuse. Et vient s'ajouter à cela, en fait, surtout maintenant le défaut du paiement de l'aide au logement par le régime de l'aide au logement qui est plus financé aujourd'hui pour la période de juillet. Et donc ça solvabilisait quand même 3000 familles dans le parc de la SIC, plus d'autres chez les bailleurs sociaux. Et ça a amené à peu près 50% de la valeur du loyer. Donc fatalement, tout ça va se traduire par des niveaux d'impayés records.
Et face à ces difficultés, la SIC a décidé de rééchelonner ses prêts auprès des organismes bancaires, mais aussi de mettre en place un plan drastique d'économie. Ses principaux chantiers sont annulés ou reportés pour un montant total d'environ 3 milliards de francs. Seuls les travaux concernant l'hygiène et la sécurité des locataires sont assurés. Objectif, gagner du temps pour mettre en place des réformes structurelles. C'est la stratégie que défend Petelo Sao, le président de la SIC.
C'est de la responsabilité de nos élus de mener ces réformes urgentes d'ici la fin de l'année et non pas attendre l'année prochaine, parce que sinon ce sont les 27 000 familles qu'on mettra en péril. Les pistes qui sont à l'étude, nous on a évoqué depuis 3 ans la création d'un fonds de garantie des impayés qui permettra d'assurer et de garantir pour tous les bailleurs sociaux le paiement des loyers des locataires, et puis un fonds de rénovation urbaine aussi qui permettra de financer les opérations de réhabilitation au sein des résidences historiques de façon à garantir l'inclusion sociale en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des mesures qui permettraient d'utiliser des taxes qui sont déjà existantes. Les fonds, ils sont déjà là, mais ils sont ventilés de manière différente. Nous, ce qu'on propose, c'est de les reventiler afin de garantir un financement solide du logement social en Nouvelle-Calédonie.
Pour Benoît Naturel, le directeur de la SIC, le logement doit être un pilier du plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction du territoire.
Ayons conscience qu'en fait le secteur du logement est une contribution fondamentale aux besoins des Calédoniens, et ayons conscience qu'en fait en travaillant pas ce sujet-là, parce que c'est le réceptacle de beaucoup de problématiques sociales, on parlait tout à l'heure de transport, on parle également d'éducation, on parle de santé, si on travaille pas ce pilier-là, on va nécessairement pas voir de manière globale la façon dont les Calédoniens seront le mieux accompagnés dans la phase de sauvegarde, de refondation et surtout ce qu'on espère tous de reconstruction.
Et aujourd'hui, la SIC s'interroge aussi sur le nombre de vacances commerciales depuis le début de cette crise. Elle enregistre une centaine de clients en moins depuis le 13 mai. Alors où sont-ils? Il est trop tôt pour le moment pour le dire, mais il pourrait y avoir des questions de surpopulation dans les logements ou alors des gens qui sont contraints de vivre dans les squats.
Prenons maintenant la direction du Congrès où les élus sont réunis ce matin à nouveau. Ils étudient pour la deuxième fois la proposition de résolution déposée par Calédonie Ensemble qui demande à l'État un plan quinquennal d'accompagnement pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Gilles Ménage.
Le texte qui est en effet examiné pour la seconde fois ce matin est une proposition de résolution déposée par Calédonie Ensemble qui demande, vous l'avez dit, à l'État un plan quinquennal de reconstruction et d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie. Le 20 août dernier, ce texte avait fait l'objet d'une motion préjudicielle adoptée à l'unanimité à l'initiative de l'intergroupe loyaliste pour en affiner la rédaction en tenant compte de toutes les sensibilités politiques. Une réunion des chefs de groupe qui s'est prolongée tard vendredi dernier a débouché sur le dépôt de 28 amendements rédactionnels qui sont examinés en ce moment même. L'idée générale est de présenter une résolution unanime qui puisse être adressée très rapidement à l'État en raison de l'urgence de la situation. Les élus sont en tout cas d'accord pour constater que l'aide financière de l'État est à ce stade très insuffisante au regard de l'ampleur des besoins. À ce jour, l'aide de l'État s'est élevée en effet à 2,5 milliards de francs pour 145 milliards de dégâts. Quant à la ligne de 26 milliards de francs ouverte par l'Institut des missions d'outre-mer, elle n'a permis la mise en place jusqu'ici que d'une dizaine de crédits de trésorerie. Enfin, en ce qui concerne les compagnies d'assurance, elles n'ont versé aux entreprises calédoniennes sinistrées que 4% des indemnisations attendues à fin juillet 2024. C'est pourquoi, selon les élus, il est d'une urgence vitale désormais de créer un cadre d'ensemble structuré associant les institutions calédoniennes et l'État afin qu'un plan quinquennal soit adopté et soit mis en place par l'État. Ce plan réajustable chaque année, selon les élus, d'un montant évalué à 100 milliards de francs par an, permettrait d'assurer le sauvetage du territoire dans un premier temps et dans un second temps d'engager sa reconstruction. L'objectif de la séance de ce matin est donc de parvenir à l'unanimité, mais je peux déjà vous annoncer que ce ne sera finalement pas le cas, car le groupe UNI a déjà fait savoir qu'il s'abstiendrait sur ce texte, car il considère que la proposition de Calédonie Ensemble doit être en réalité intégrée au plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction présenté hier par le gouvernement, les deux démarches étant similaires. Le premier amendement rédactionnel adopté il y a un instant en témoigne, il a recueilli 40 voix pour, 7 abstentions de la part du groupe UNI, donc, et même une voix contre, celle de Maria Staliga-Lutowicka. On s'attend évidemment au même résultat sur l'ensemble du texte. En direct du Congrès, j'ai le ménage Radio Rythme Bleu.
Et je vous rappelle que c'est demain, le 29 août, le renouvellement du bureau et du président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. La séance solennelle débutera à 9h en présence des corps constitués et les élus devront d'abord élire le président de l'institution. Une séance au suspense limité, mais rien n'est bloqué, nous affirmait ce matin Naya Wateu, qui était notre invitée à 7h30, Elisabeth Noir. C'est elle qui sera demain la candidate des loyalistes et du Rassemblement.
Un suspense limité, vous le disiez, parce que depuis le début de la mandature, en mai 2019, l'élection du président du Congrès a des allures de simple formalité. À chaque fois, Roch Wamito est élu à la présidence avec les voix de l'UCFLNKS, de l'UNI et de l'Éveil océanien. Un nouveau scénario va-t-il s'écrire cette année ? C'est peu probable, alors que Roch Wamito sera très vraisemblablement de nouveau candidat à la présidence, on le saura demain matin, et qu'il aura face à lui la candidature de Naya Wateu pour les loyalistes et le Rassemblement, et de Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble. Mais le 13 mai a rebattu les cartes, et la candidature de Roch Wamito pose des questions, voire des problèmes, nous disait ce matin Naya Wateu.
Une personne qui, dans le cas des exactions qui ont été commises le 13 mai, finalement, ne s'est pas exprimée très clairement. Des propos qui ont été tenus, même avant les exactions, je le rappelle quand même, hein, le seuil de tolérance des Blancs est atteint. C'est des propos qui sont inacceptables et scandaleux lorsqu'on préside une institution comme le Congrès, qui est censé représenter l'ensemble des Calédoniens. Une personnalité qui, aujourd'hui, endosse aussi une casquette de responsable coutumier. Et là, je pense notamment aux citoyens mondoriens qui subissent de plein fouet aujourd'hui le fait qu'il ne se passe rien sur Saint-Louis, que les exactions qui sont faites en interne ne sont pas condamnés. On a un chef coutumier qui aujourd'hui ne tient pas ses troupes et qui représente aujourd'hui l'institution et les Calédoniens. Ça, c'est plus possible, c'est pas possible. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que les Calédoniens ont besoin de se sentir beaucoup plus représentés, beaucoup mieux représentés au sein de cette institution.
Et à cela s'ajoute aussi la situation de la directrice de cabinet de Roch Wamito, Frédéric Mouliava, qui, on le sait, est actuellement mise en examen dans le cadre de l'enquête sur les exactions de la CCAT et qui est sous contrôle judiciaire en métropole. Une candidature qui néanmoins semble jouée d'avance, mais selon Naya Wateu, les jeux ne sont pas faits.
Non, parce qu'il y a toujours des discussions et je pense qu'il faut aussi faire preuve d'intelligence, de consensus. Et encore une fois, cette élection, elle est particulière parce qu'il y a des candidats qui sont déclarés, on est sur 3 tours, il y a des discussions qui sont engagées et les discussions sont encore en cours. Donc rien n'est joué, rien n'est joué. J'ai envie en tout cas d'essayer de rassurer les Calédoniens sur ce point, en tout cas ceux qui aujourd'hui souhaitent voir un changement au niveau de cette institution sur cette dernière année qui va être cruciale, importante. On va devoir décider énormément de choses sur cette dernière mandature, d'avoir aujourd'hui un congrès qui soit en action, en contrôle aussi de ce qui se passe au niveau du gouvernement ou de ce qui ne se passe pas au gouvernement même. C'est important.
Rien n'est tranché et rien n'est bloqué, déclare la candidate des loyalistes et du Rassemblement, qui indique que des discussions sont encore en cours et qui évoque la possibilité de se réunir autour d'une candidature sur laquelle les Calédoniens se retrouvent, d'autant plus qu'elle met en cause également la gouvernance du Congrès avec l'exemple du mémorandum signé avec l'Azerbaïdjan.
Les discussions qui sont faites au titre du Congrès sur des sujets à caractère internationaux comme les rapprochements qui sont faits avec Bakou, l'Azerbaïdjan, là on est dans une opacité la plus complète. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'au travers du Congrès, sur des compétences qui sont pas les siennes notamment, enfin, quand on va signer un mémorandum où on va parler des mesures à mettre en place pour la jeunesse, pour l'insertion, et encore une fois, ces éléments-là, on les a parce qu'il y a eu quelques fuites au sein de la presse. Mais ce document-là n'a jamais été transmis aux membres du Congrès. Donc l'opacité, elle est là quand même.
Une interview de Naya Watebou à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Et puis, il y a une autre candidature chez les non-indépendantistes, elle a été annoncée hier. C'est celle de Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble. Et il justifie cette candidature.
Je pense que le Congrès doit jouer un rôle déterminant pour sortir de cette crise. Pour moi, le parcours qui a été le mien, les relais dont je dispose à Paris, mon engagement au sein du Congrès depuis toujours, m'ont amené à considérer que c'était le bon moment pour présenter cette candidature afin que, encore une fois, même si le Congrès a ses missions traditionnelles, l'institution qui représente finalement la souveraineté populaire des Calédoniens, puisqu'on a tous les élus représentant les trois provinces, cette institution joue pleinement son rôle pour véritablement aller à l'os, engager les réformes qui sont nécessaire le plus vite possible, discuter bien sûr avec l'État pour dégager des financements, tout ceci en étroite collaboration avec le gouvernement. Donc c'est une proposition de candidature qui se veut volontariste et engagée, évidemment impartiale, hein, qui est le rôle du président du Congrès.
En 2022 et en 2023, il n'y avait qu'un candidat chez les non-indépendantistes, Gilles Brial puis Naya Watebou. Cette fois-ci, ils seront deux, mais selon Philippe Dunoyer, l'unité est encore possible.
Je pense toujours que c'est possible, que finalement l'unité se fasse autour de ma candidature cette fois-ci. Objectivement, mathématiquement, le sens de cette élection va plutôt dans le camp indépendantiste et pour le candidat indépendantiste. Donc il n'y a pas un enjeu majeur ou une surprise de derrière les fagots. Et je pense que par contre, si on n'arrive pas à afficher la même unité, ce sera un peu dommage. Nous avons joué cette carte-là depuis 2 ans et je pense qu'on pourrait, on devra, je pense, parvenir à un équilibre pour qu'il y ait une candidature au final dans la sensibilité d'un indépendantiste.
Le suspense sera donc levé demain matin concernant l'élection du président du Congrès. Les élus devront ensuite procéder au renouvellement du bureau et des commissions internes du Congrès. Sachez d'ores et déjà que 3 listes ont été déposées pour l'élection des 8 vice-présidents du bureau du Congrès, pour l'élection des secrétaires, pour celle des questeurs et pour celle de la commission permanente. Ces 3 listes sont celles déposées par le groupe UCF-LNKS et Nationaliste, conjointement avec le groupe UNI, une liste déposée par les Loyalistes et le Rassemblement, et une liste déposée par Calédonie Ensemble. En revanche, 5 listes ont été déposées pour l'élection des membres des commissions intérieures et pour les représentants des congrès au sein des organismes extérieurs. Il s'agit d'une liste déposée par le groupe UCF-LNKS et Nationaliste, une liste déposée par le groupe Loyaliste, une liste déposée par le groupe UNI, une liste déposée par le groupe Rassemblement et une liste enfin déposée par le groupe Calédonie Ensemble.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS. Voici notre question du jour. Le plan sauvegarde, refondation, reconstruction présenté par le gouvernement va-t-il être efficace selon vous pour rebâtir la Calédonie après la catastrophe économique et sociale provoquée par les émeutes? Si oui, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 98% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent anormal que l'Azerbaïdjan soit présente au 53e sommet du Forum des îles du Pacifique qui se tient à Tonga. Ils ne sont que 2% à trouver normal que l'Azerbaïdjan y soit présente. Il est 11h45, une première pause avant de voir la suite dans un instant de l'actualité en Calédonie. Nous parlerons de cette pharmacie qui a été saccagée à Lifou dans la nuit de lundi à mardi.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, on sait Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Une pharmacie a été saccagée à Lifou. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi dernier. Diane Ballanger, co-gérante de la pharmacie de Wé, qui a donc été saccagée, alerte sur le regain de violence constaté à l'encontre des structures médicales sur l'île.
On nous a défoncé le mur avec une bouteille de gaz, a priori, on pense. Et puis, on nous a volé notre caisse, notre fond de caisse et notre caisse. On nous a cassé la caisse. Et puis, on nous a piqué aussi un carton de Doliprane. Alors moi, ça fait 14 ans que je suis sur l'île et que je travaille dans cette pharmacie depuis 14 ans. Là, à savoir qu'en 14 ans, moi, je n'ai jamais vu ça. Il y a quand même, faut le dire, une vague de cambriolage dans où il faut que la population réagisse, en fait. Parce que c'est la pharmacie, quand ça touche la pharmacie, ça touche à la santé des gens, en fait. Ça touche forcément aux vieux, qui ont des habitudes de prendre leurs médicaments, ça touche les bébés, les jeunes, ça touche tout le monde en fait, toute la population est touchée.
Et actuellement, il n'y a donc pas de pharmacie ouverte à Lifou. La première, celle de Wé, on vient de le voir, a été saccagée. L'autre pharmacie, la pharmacie du Santal, a décidé, elle, de fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre, en signe de solidarité. L'association des citoyens mondoriens a manifesté une dizaine de minutes devant le Haut-Saria ce matin avec des banderoles « Libérer le Mondor » ou encore « Mondor prisonnier de Saint-Louis ». Écoutez Florent Perrin, le président de l'association.
Faut pas oublier les mondoriens. On attend toujours d'être libérés et on n'en peut plus. Les familles sont de plus en plus éclatées au Mont d'Or. Les gens viennent habiter à Nouméa. Les élèves peuvent pas aller en cours. Donc toutes nos vies sont brisées. Il faut qu'on nous libère la route maintenant. Donc on est venu pour simplement faire une petite opération banderole. Comme en plus on n'a pas le droit de manifester. Donc on nous a quand même autorisé de déployer une banderole devant le Haut Commissariat. Donc on est venu qu'on ne nous oublie pas, parce que dans les bureaux à Nouméa, tout va bien. Donc, de marquer dans vos petits coins de la tête que nous, on est là-bas et puis on vit toujours très mal les choses. On est les seuls en Calédonie encore à être prisonniers, à être otages de la situation. Ça suffit, franchement, ça suffit. On est résilients, on fait les choses dans les règles, dans la loi. Et en fait, il y a des hors-la-loi aujourd'hui qui nous prennent en otage et c'est plus supportable.
Et l'association des citoyens mondoriens annonce qu'elle sera présente tous les mercredis devant le Haut-Commissariat. Les pompiers ont de nouveau été pris pour cible la nuit dernière lors d'une intervention aux alentours de 23h30 entre le 7e kilomètre et Rivière-Salée. Le camion de pompiers a été violemment caillassé. Aucun agent n'a été blessé, mais l'engin de service porte de nombreuses traces d'impact. Une plainte a été déposée. Les pompiers intervenaient rue Paul Bloch pour un feu volontaire de poubelle. Et puis cette disparition inquiétante signalée par la police. Une jeune fille de 15 ans d'origine mélanésienne a quitté le domicile familial à Magenta et ne l'a pas réintégrée depuis le 25 août. Elle portait une mini-robe vert clair à fleurs ainsi qu'une veste en jean avec des motifs noirs et blancs sur les manches. Elle mesure 1,55 m. Elle est de corpulence normale. Toute personne qui possède des informations est invitée à contacter le 24-33-00, le 24-33-00 ou alors de composer le 17. Dans le reste de l'actualité en Calédonie, en bref, la réunion ce soir du conseil municipal de Nouméa à partir de 18h. Les élus doivent étudier la délibération numéro 1 du budget principal 2024. Ils doivent aussi se pencher sur des ajustements d'organisation de plusieurs services. Ce mouvement de grève hier devant l'EHPAD Les Pavillons d'Eugénie à Païta. Le syndicat Stop Cogetra conteste le licenciement de l'un des employés de la maison de retraite qu'il qualifie d'abusif. Le responsable de la maintenance logistique en CDI depuis un an a récemment été licencié pour motif économique et remplacé par une activité de sous-traitance à mi-temps. Le syndicat souhaite que l'employé réintègre son poste. Aucun arrangement n'a pour l'instant été trouvé. La Cogetra entend porter l'affaire devant le tribunal. Et puis l'ISEE relance son enquête force de travail. Une première phase s'est déroulée en début d'année, mais l'enquête Léana Colombo a dû être interrompue en raison des émeutes.
Oui, une nouvelle collecte de données a débuté ce lundi, au mois d'avril. Sur les 5000 foyers concernés par cette enquête, seul un tiers a pu être sondé. L'objectif est de récolter des données pour ensuite orienter les politiques publiques. Les précisions d'Élise Desmazure, la directrice de l'ISEE.
C'est une enquête qui vise à avoir une bonne connaissance du marché du travail. Cette enquête, elle nous permet d'avoir vraiment beaucoup plus d'informations donc sur les situations par rapport à l'emploi. Est-ce que les gens sont effectivement en activité? Est-ce qu'ils sont en position de recherche d'emploi, etc.? Et en l'absence de cette enquête, par exemple, on ne peut pas avoir de calcul du taux de chômage au sens du Bureau international du travail. Cette enquête, elle nous permet d'identifier, par exemple, la population active et de calculer le nombre de chômeurs, par exemple, au sens du BIT.
Et compte tenu du contexte particulier que vit la Calédonie, Élise Desmazure souhaite rassurer la population qui serait interrogée. Cette enquête est officielle et les enquêteurs sont accrédités.
On a continué un petit peu l'enquête sous forme d'appel téléphonique. Parce qu'il faut savoir que la particularité de cette enquête aussi, c'est qu'elle comprend des réinterrogations. On va interroger les ménages 3 années de suite. Donc dans certains cas, on peut se permettre de faire l'interrogation uniquement par téléphone, ce qu'on a pu faire au moment des émeutes. On a un pool d'une quinzaine d'enquêteurs donc qui viennent avec des lettres qui sont signées, qui expliquent en fait la démarche et qui sont aussi dotés d'une carte qui est authentifiée, qui sont bien des enquêteurs de l'Institut de la Statistique.
Et notez que l'enquête devrait se poursuivre jusqu'à début décembre.
On en vient à l'actualité dans la région avec la poursuite du 53e sommet du Forum des îles du Pacifique à Tonga. Il recevra demain la visite du secrétaire d'État adjoint des États-Unis. Kurt Campbell entame en effet par Nuku'alofa une visite de 3 jours dans le Pacifique Sud. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Kurt Campbell arrivera demain au Tonga où il conduira la délégation qui représentera les États-Unis au 53e sommet annuel du Forum des îles du Pacifique qui se poursuit à Nuku'alofa. Il se rendra ensuite à Port Vila où il procédera à l'inauguration officielle de l'ambassade des USA au Vanuatu, la plus récente des missions américaines à l'étranger. Sa visite régionale le conduira enfin à Auckland où il co-présidera le dialogue stratégique américano-kiwi avant de rencontrer des hauts fonctionnaires du gouvernement néo-zélandais. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et puis précisons que le Forum des îles du Pacifique, qui est donc réuni en sommet à Tonga, aurait validé la venue d'une mission sur le territoire. Cette mission était prévue pour venir initialement fin août pour faire un état des lieux après les graves troubles des derniers mois. Et c'était prévu avant la tenue du sommet du Forum, mais finalement, il est annoncé qu'elle viendrait au mois d'octobre. Il est 11h53, une nouvelle pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité en métropole et dans le monde dans un instant.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Information, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse. rrb@rrb.nc. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Jean-François Bodin.
En métropole, Emmanuel Macron lance de nouvelles discussions avec les groupes politiques. Le premier round de discussions n'a pas permis de désigner un Premier ministre. Le chef de l'État a simplement indiqué qu'il ne désignerait pas un représentant du Nouveau Front Populaire et donc Lucie Castet, qui avait été désignée par la coalition de gauche. Il repart donc dans une nouvelle série de consultations. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Je reçois tous ceux qui veulent bien venir continuer à œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays. Voilà les quelques mots lâchés ce soir par Emmanuel Macron à propos de ce nouveau cycle de consultation. Le président ne dit pas grand-chose, mais on comprend tout de même qu'à ses yeux, le RN et les Insoumis n'œuvrent pas pour l'intérêt supérieur de la nation puisqu'ils n'ont pas reçu de carton d'invitation. Ce deuxième tour de discussion se révèle beaucoup moins préparé que le premier qui s'est tenu hier et avant-hier. Très peu d'informations communiquées par l'Élysée. Pas de programme précis. À ce stade, l'entourage du président confirme seulement qu'il a reçu ce matin les indépendants du groupe Liotte, qu'il a ensuite déjeuné avec le patron du Modem, François Bayrou. Les LR de Laurent Wauquiez font eux savoir qu'ils ont rendez-vous demain avec le chef de l'État. En tout cas, certains des interlocuteurs d'Emmanuel Macron laissent entendre que les concertations pourraient encore durer et que le nom du nouveau Premier ministre ne devrait pas être connu avant au moins 8 jours.
La France insoumise est évidemment vent debout contre le refus du chef de l'État de nommer Lucie Castet à Matignon. Les responsables du parti de Jean-Luc Mélenchon parlent de déni de démocratie et annoncent l'organisation d'une manifestation le 7 septembre. Les autres partis de la coalition de gauche ne donnent pour l'instant pas de consigne, mais certains élus socialistes ont annoncé leur participation, comme le député Arthur Delaporte.
Parti socialiste en tant que tel n'appellera pas à manifester, mais je pense que beaucoup de socialistes seront dans les rues. Il y a différentes organisations politiques qui composent le nouveau Front populaire, et chacune a sa liberté. Donc moi, je suis socialiste, je suis pas insoumis, et donc j'ai ma liberté, mais pour autant... Si on doit dire qu'on est en colère, moi je dirais que je suis en colère et je dis encore une fois que je n'ai pas de problème à me rendre dans la rue le 7 septembre pour dire au président de la République qu'il a abusé avec la lecture des institutions et qu'il aurait dû, comme dans n'importe quelle démocratie parlementaire, appeler Lucie Casté, qui est désignée par le principal bloc politique à l'Assemblée nationale, à former un gouvernement.
En attendant, il n'y a donc pas de Premier ministre ni de gouvernement de plein exercice et il n'y en aura probablement pas d'ici la rentrée scolaire la semaine prochaine. Une situation inédite, c'est donc la ministre de l'Éducation nationale démissionnaire, Nicole Belloubet, qui a tenu la traditionnelle conférence de presse de rentrée avant la reprise des cours. Une rentrée sans cap majeur et sans réforme qui se profile. Louise Salé.
Nicole Belloubet a souvent fait référence au caractère démissionnaire de sa fonction, parfois avec humour, tout en se voulant rassurante, car la rentrée se fera quoi qu'il en soit.
Aujourd'hui, la rentrée est prête. Les affaires courantes ne sont ni un temps suspendu pour l'école, ni un temps mort, parce que l'école n'attend pas.
Mais la dissolution de l'Assemblée n'est pas sans conséquence. Plusieurs décrets sont gelés. Le caractère obligatoire du brevet en troisième pour passer en seconde, qui devait entrer en vigueur cette année. La réforme de la formation initiale des enseignants est en suspens. La refonte des programmes scolaires en primaire reportée. Seuls les groupes de niveau, requalifiés avec insistance par la ministre, groupes de besoin en maths et français en 6e et 5e, verront le jour. Mais ils seront appliqués avec, je cite, « souplesse et pragmatisme » en raison des contraintes budgétaires. Sur ce point, Nicole Belloubet a d'ailleurs osé affirmer que la rigueur budgétaire imposée à son ministère ne couvrait pas l'ensemble des besoins. Pour cette rentrée, enfin, plusieurs expérimentations déjà annoncées sont maintenues. L'uniforme dans une centaine d'établissements et l'interdiction du téléphone dans l'enceinte de 200 collèges, mesure qui devrait être généralisée en 2025 si le nouveau gouvernement le permet.
L'actualité en métropole, c'est aussi la très forte émotion parmi le peloton de gendarmerie motorisée de Mandelieu. L'un des leurs, l'adjudant Éric Comine, a été tué par un chauffard qui a refusé d'obtempérer et de s'arrêter lors d'un contrôle routier. Les collègues de la victime sont sous le choc.
On se fréquentait en dehors. Je perds un ami et je perds un camarade. C'est quelqu'un qui était très très humain, toujours intègre, toujours calme, posé. Il était très proche de ses enfants, très proche de sa femme. Il était comme au travail, au niveau de sa famille. Quoi. Voilà.
C'est un militaire exemplaire, apprécié de tous. Et aujourd'hui, il y a un vide. On a un grand vide au fond de notre cœur. Et aujourd'hui, on est dévasté d'avoir perdu un homme bien.
Le chauffard est en garde à vue. C'est un Capverdien de 39 ans, connu des services de police pour des délits routiers et des faits de violence. L'adjudant Éric Comine avait deux enfants, âgés de 12 et 16 ans. L'actualité à l'étranger avec la libération d'un nouvel otage israélien retenu par le Hamas depuis les attaques terroristes du 7 octobre. Après 10 mois de captivité, il a été délivré par l'armée israélienne lors d'une opération délicate dans les tunnels du sud de la bande de Gaza. Une satisfaction pour le porte-parole de l'armée israélienne, le colonel Rafovitz, mais le travail n'est pas terminé, a-t-il dit à nos confrères d'Europe 1.
Il y a actuellement 108 otages aux mains du Hamas, dont une partie malheureusement ne sont plus en vie. Mais pour nous, chacune de ces personnes doit revenir en Israël et ça reste une priorité absolue que le retour de ces otages se fasse. Et encore une fois, cette opération qui a eu lieu aujourd'hui a mis en place en fait tout un dispositif humain et du renseignement, chercher et sauver un otage dans un des tunnels du sud de Gaza, de la bande de Gaza.
L'otage israélien est en bonne santé, a indiqué l'armée israélienne. Il est pour l'instant à l'hôpital pour divers examens et devrait retrouver très vite sa famille et ses 11 enfants. Il est midi, dans un instant, on défilera l'actualité sportive pour terminer ce journal.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020, 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport et avant de retrouver Jean-François Baudin, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
On va parler cyclisme pour ouvrir cette page sport. Le Belge Wout van Aert est décidément au sommet de sa forme. Il a remporté la 10e étape du Tour d'Espagne, Nicolas.
Oui, sa 3e victoire sur la Vuelta cette année. Il a animé l'étape de bout en bout en lançant l'échappée. Finalement, seul le Français Quentin Paché a réussi à le suivre. Ils ont fait la course à deux entre le sprint intermédiaire et l'arrivée. Et c'est à 150 mètres de la ligne d'arrivée que le Belge a placé son attaque fatale aux Français. Quentin Paché, pas fâché pour autant à l'arrivée de l'étape.
Oui, bon, ce n'est pas évident de trouver un endroit où l'attaquer, parce qu'il est fort partout. Donc j'ai juste suivi sa roue en espérant je ne sais quoi. J'ai juste tout donné sans réfléchir. Je ne peux qu'être satisfait, car je me suis battu avec des gars très forts, donc oui.
Au classement général, pas de changement. L'Australien Ben O'Connor est en tête avec 3 minutes 53 d'avance sur Primoz Roglic et 4 minutes 32 sur Richard Carapaz. Le premier Français David Gaudu est 10e à 6 minutes 32 secondes du leader. Prochaine étape la nuit prochaine, longue de 166,4 km autour de Padrone, où les coureurs devront gravir deux ascensions de 3e et 2e catégorie, et ce, deux fois de suite.
Du football, on jouait ce matin 3 matchs de barrage retour de la Ligue des Champions.
Oui, on retiendra la qualification du RB Salzbourg malgré son match nul à domicile contre le Dynamo Kiev, 1 partout. Les Suisses profitent de leur victoire 2-0 au match aller. Le Sparta Prague s'est qualifié après avoir battu le Malmö FF sur le même score qu'à l'aller, 2-0. Quant aux Young Boys de Berne, ils se sont quant à eux qualifiés en battant le Galatasaray. Score final ce matin, 1-0.
Et puis en tennis, c'était la nuit dernière la suite du premier tour de l'US Open.
Oui, et côté tricolore, le triple vainqueur du tournoi de Nouméa, Adrian Manarino, s'est qualifié en battant le Croate Borna Koric. Arthur Fils poursuit aussi l'aventure après sa victoire contre l'Américain Lerner Tien. Constant Lestienne, en revanche, a été sèchement sorti en 3-7 par l'Australien Jordan Thompson. Hugo Gaston a subi le même sort contre l'Argentin Facundo Diaz Acosta. Défaite également de Quentin Alice face au Finlandais Otto Virtanen. Chez les femmes, ça passe facilement en revanche pour Jessica Ponchet contre la Chinoise Seisei Song. Une victoire 2-7-0. En revanche, Caroline Garcia fait ses valises. Elle a perdu contre la Mexicaine Renata Zararzua.
Et puis un mot de tennis en Calédonie avec les dernières finales de l'Open du Receiving hier soir en double messieurs. Victoire de la paire Thomas Buisson, Alexandre Miro, 6-3-6-4. Ils se sont imposés sur la paire Pierre Drouet, Stéphane Johnston. Alexandre Miro qui s'est aussi imposé dans le double mixte où il était associé cette fois-ci à Lisiane Motone-Kiriaï. Victoire 7-5-6-0 face à la paire Stéphanie Di Lucio, Frédéric Stotz.